Alors, bon matin à tous. Ça me fait toujours un plaisir de venir ici à mon assemblée. 20 ans ici au Cap-de-la-Madeleine, dans l'ancien bâtiment. Dans l'ancien, ancien bâtiment, parce que on avait déjà fait une rallonge après quelques années. Et on a participé à tout ça, avec le Café chrétien en bas, pendant aussi plusieurs années. Et on a beaucoup de bons souvenirs ici à l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine et ça me fait toujours plaisir de repasser, vous voir. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse partager ce que j'ai sur le cœur concernant un sujet qui est pas facile. Et ça fait 30 quelques années que je réfléchissais à ce sujet sans avoir nécessairement autant de réponses. Et les 3 dernières années, particulièrement, m'ont amené à ne traiter ou à ne réfléchir que sur ce sujet. Et j'ai eu beaucoup de sueur dans ces réflexions et j'ai mis beaucoup de temps. Et j'ai jamais mis autant de temps pour préparer un message que celui que je voulais vous donner ce matin. Parce que c'est un sujet qui est difficile et qui peut nous apparaître compliqué, mais je crois que c'est pas finalement si compliqué que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de données qui sont là. Alors, je vais commencer en lisant un texte dans Galates au chapitre 3 et au verset 6. Galates, chapitre 3 et verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, Dieu avait prévu un plan pour l'humanité. On en a parlé au repas du Seigneur, la croix. Et il avait prévu, suite à Abraham, qui était un croyant, que toutes les nations pourraient être bénies en Abraham à cause de la foi d'Abraham. Sa foi lui a été imputée à justice. Et le même principe ou le même privilège va accompagner toutes les nations qui vont pouvoir être bénies et devenir enfants d'Abraham ou fils d'Abraham par la foi aussi. Alors, la question qu'on se pose, quelle est la part de Dieu dans mon salut? Et est-ce qu'il y a une part de l'homme? Et il y a plusieurs difficultés théologiques qui nous amènent à avoir de la difficulté avec la part de l'homme dans son salut. Et je vais essayer d'expliquer les difficultés que ça crée. Par exemple, si on dit que nous sommes sauvés par l'élection, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, donc Dieu a choisi des individus pour le salut. Et après les avoir choisis, bien, il les a appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, comme on lit dans les Écritures. Alors, en même temps, on lit que Christ est mort pour tous. Que tous, le salut est universel. Dieu appelle tous les hommes au salut. Et qu'il est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, c'est difficile de concilier le fait que Dieu ait choisi des humains sur la terre par pure grâce dans sa souveraineté et de concilier en même temps que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. À quelque part, lorsque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et si tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'il y a quelque chose entre Dieu et les hommes qui est venu interférer, parce que ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un homme se perde? Il doit y avoir à quelque part une part de l'homme qui associe aussi à sa part une responsabilité. Et on vient de lire qu'Abraham a été justifié par la foi. Et Dieu a prévu que dans les siècles qui viendraient, l'homme serait justifié de la même manière aussi, par la foi. Alors la foi du croyant, est-ce qu'elle est une part dans le salut de l'être humain? Le problème, on a eu avec la réforme, calviniste, Luther, tout ça, nous ont amené à réaliser que le salut n'était pas par les œuvres. Alors, si le salut est sans les œuvres, est-ce que la foi est une œuvre? S'il faut que je croie pour arriver au salut, il faut se poser la question, est-ce que la foi est une œuvre? Si la foi est une œuvre, je ne peux pas être sauvé par ma foi. Une autre chose qu'on a découvert par la réforme ou qu'on a appuyé par la réforme, et c'est vrai le salut sans les œuvres, c'est la souveraineté de Dieu. Si c'est ma foi dans l'œuvre de Christ qui m'amène au salut, est-ce que Dieu demeure souverain? Est-ce que c'est lui qui a décidé que j'étais sauvé ou ma foi? Alors on s'inquiète, on veut protéger le salut par les œuvres en disant que oui, la foi, mais... On veut protéger la souveraineté de Dieu. Oui, tu peux choisir de venir au Seigneur, mais tu es souverain. Et on a un autre problème aussi, s'il y a une part de l'homme. C'est la corruption totale de l'être humain. Est-ce que l'être humain est totalement corrompu? Est-ce qu'il peut avoir un désir pour Jésus-Christ dans le corps humain perdu, dans l'être humain perdu? Sa corruption totale ne l'empêche-t-elle pas de venir à Jésus-Christ? Donc, il n'y a pas de part. Il ne peut pas avoir une part parce qu'il est mort. Je dirais que c'est les trois principales raisons qui nous amènent à penser que Dieu est 100% seul dans le processus de salut de l'être humain. Mais ça nous amène à un autre problème, que si Dieu est 100% seul dans le processus à cause des trois choses que je viens de nommer, alors il est aussi le seul responsable de notre incrédulité. Parce que là, si ce n'est pas ma foi, s'il faut que Dieu me donne la foi, si je ne l'ai pas, il fallait qu'il me la donne. Donc, Dieu deviendrait le seul responsable de notre incrédulité. Alors, on ne veut pas ça non plus. Et si Dieu a fait une élection et a choisi des gens, alors ça devient un salut limité. Alors, on veut que Dieu soit souverain. Et on veut que c'est celui qui décide, qui sauve qui veut, il fait miséricorde à qui il veut, quand il veut. Mais en même temps, on ne veut pas que le salut soit limité. Alors, c'est ce qui crée le dilemme dans notre façon de réfléchir en ce qui concerne la part de Dieu et la part de l'homme. Les deux ont un noble but de défendre, et un, la souveraineté de Dieu, et un, le salut par les œuvres, et la corruption totale de l'être humain. Et l'autre... le salut limité, qu'on ne veut pas non plus, et la souveraineté de Dieu qu'on veut garder. Et là, on est dans un genre de dilemme, et on appelle ça un mystère. On arrive avec un genre de mystère. 100% Dieu. 100% Dieu égale l'être humain 100% passif dans le processus. Ainsi, Dieu est seul qui justifie, et Dieu est le seul qui sanctifie. Tout est de Dieu et rien n'est de l'homme. 100% Dieu ça avance pas tout le temps. OK. 100% Dieu. Les 100% Dieu suite à la réforme, on les a appelés pour certains les hyper-calvinistes. Parce que, pourquoi on dit hyper-calviniste? Parce que le calviniste a amené la souveraineté et toutes les choses qu'on vient de nommer, mais le raisonnement où tout ça nous amène n'est pas bon. Parce que ça amène un salut limité, ça amène un homme passif et il n'a pas à choisir. Le choix des individus. L'hyper-calviniste va dire, tu n'es pas libre parce que Dieu est souverain. Tu n'as pas vraiment la liberté. Dieu t'a élu et tu vas venir au salut. Tu n'as pas la liberté. L'incroyant ou celui qui ne sera pas sauvé, dans le fond, seuls les élus peuvent venir. Personne ne peut venir à moi, par exemple, on va prendre le verset, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, pas libre, seuls les élus peuvent venir. Ça, ça nous amène à un salut limité. Seuls les élus vont venir. Et ça, ça crée problème. On ne veut pas de ce salut limité, puis on ne veut pas non plus enlever le fait que seuls les élus peuvent venir. Les modérés, eux, disons, on va appeler les hyper-calvinistes, ceux qui sont sur la ligne d'en haut, et les modérés, on va les appeler, eux autres, les modérés, ceux qui sont dans le milieu, on va les appeler les modérés, c'est ceux que, si vous vous rappelez, dans le temps où on lisait sur Raph Chalice, je pense qu'il écrivait ça, il nous présentait ça comme une arche avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Sur le côté de l'arche, où ce qu'on est, avant la conversion, on a tous son libre de venir à la foi. Et lorsqu'on est rentré, c'est écrit de l'autre côté, « T'étais élu ». Si t'as rentré, c'est parce que t'étais élu. Ça, c'est les modérés. Pourquoi? Même si les deux choses ne font pas ensemble, parce qu'on ne veut pas enlever ni un ni l'autre. On veut garder les deux. Donc, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on dit tout le monde est libre, mais dans le fond, seuls les élus peuvent venir. Et là, on a une incohérence. Ça fonctionne pas. On est libre d'entrer ou on n'est pas libre. On est élu, puis on rentre, puis on n'avait pas le choix de rentrer parce qu'on était élu. Une offre de salut universelle cohérente, il faudrait que chacun puisse avoir la possibilité de venir. Si Dieu appelle le monde entier au salut, si c'est disponible pour tous, pour que ça soit cohérent, il faut que tous aient la possibilité de venir. Pas seulement les élus, mais tous peuvent venir à l'appel de la croix et mettre leur foi en Jésus-Christ. Ça prend la possibilité de venir à la foi et ça prend la liberté aussi pour tous de venir. Si c'est 100% Dieu seul et que tous ne sont pas sauvés, on est en présence d'un salut qui est limité et en même temps, on est en présence du fait que Dieu est le seul responsable de l'incrédulité de l'homme parce que l'homme ne pouvait pas croire à moins que Dieu le fasse croire, que Dieu crée en lui le vouloir et le faire. Si tous ne sont pas sauvés, et que Dieu est 100% seul, on est en présence d'un salut limité, et seul Dieu est responsable à ce moment-là du résultat de l'œuvre ou du processus. Dieu seul responsable de l'échec du processus, puisqu'il est seul dans ce processus de salut pour l'homme. Et on éprouve la même difficulté au niveau de la sanctification. Si Dieu est seul dans le processus de notre sanctification, il se doit d'être seul aussi dans le résultat du processus. Si c'est Dieu seul qui me sanctifie et que je n'ai pas ma part dans la sanctification, alors si je demeure charnel, la responsabilité n'en revient qu'à celui qui est seul dans le processus, c'est-à-dire Dieu. Et on sait que Dieu n'est pas responsable de la vie charnelle de personne. Et Dieu n'est pas responsable non plus de l'incrédulité de personne. Donc, il se doit absolument de ne pas être seul dans le processus. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut la sanctification de tous. Et il veut aussi le salut de tous. Donc, il doit y avoir quelque chose qui intervient entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on refuse une part à l'homme dans le salut et dans la sanctification? Les trois points sont là. Si notre part est de mettre notre foi en Dieu, est-ce qu'on est en train de nier le fait qu'on est mort spirituellement? Un mort spirituel, est-ce qu'il peut agir d'une façon quelconque? Non. On croit que non. Est-ce que si notre part est de mettre notre foi en Dieu, est-ce que je suis en train de nier le fait que l'homme est mort spirituellement? On va essayer de démontrer que non. Non. Ce n'est pas parce que l'homme est mort spirituellement qu'il ne peut pas mettre sa foi en Dieu. Vous savez, lorsqu'on construit quelque chose, on a une base, un fondement qui est droit. Et si on le part tout à fait un petit peu croche quand on va arriver en haut, on arrive à côté du but. Parce que la base n'était pas bonne. Alors, si on part sur la base que je nie la mort spirituelle de l'homme, si j'admets que l'homme peut mettre sa foi en Jésus-Christ, ah bien là, c'est sûr que quand je vais arriver en haut, ça n'arrivera pas à bonne place. Parce que ma base n'est pas bonne. La base ici que je crois qui n'est pas bonne, selon les Écritures, c'est que même mort spirituellement, c'est une image. Mais cette mort spirituelle-là n'empêche personne de mettre sa foi en Jésus-Christ. On peut aller à Jésus-Christ dans notre condition de mort spirituelle. Est-ce que, si je mets ma foi en Jésus-Christ, est-ce que j'enlève à Dieu sa souveraineté? Deuxième point, pour lesquels on ne veut pas donner aucune part à l'homme. Est-ce que j'enlève à Dieu sa souveraineté? Non. Je n'enlève pas, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Que même si on met notre foi en Jésus-Christ, on n'est pas en train de soutirer à Dieu sa souveraineté. Et on va voir pourquoi. Et si notre part est de mettre notre foi en Dieu, est-ce que je suis en train de prêcher un salut par les œuvres? Non. On va essayer de démontrer que non. Et avec les versets pour le démontrer. Un vent nouveau pousse vers le 100% passif, disons hyper-calviniste, là, comme on les appelle, aux États-Unis, un peu partout dans le monde présentement. Le nouveau calvinisme est un mouvement au sein du christianisme évangélique conservateur qui adhère aux principes fondamentaux de la réforme calviniste du 16e siècle, tout en cherchant à mettre en phase les doctrines avec la culture actuelle. Le magazine Time a décrit en 2009 le nouveau calvinisme comme l'une des dix idées en train de changer le monde. Parmi ses partisans, et c'est nouveau, on a ça depuis, c'était dans le Time en 2009, Time Magazine. Parmi ses partisans, on trouve les baptistes réformés, et des baptistes du Sud principalement. Les principales figures du nouveau calvinisme sont Piper, Chandler, Muller et plusieurs autres, avec des groupes aussi de musiciens qui accompagnent tout ça. Tim Conway, qui est un pasteur du mouvement Grace Communauté. Grace Communauté, c'est le mouvement qui nous a arraché un de nos meilleurs croyants ici au Cap-de-la-Madeleine, Barclay Sawatzky, qui maintenant travaille en Ontario sous la tutelle de cette église qui l'ont soutenu. Et il est parti d'une église là en Ontario. C'est Grace Community, ça. Et un des pasteurs de Grace Community nous fait part de ses inquiétudes. Et si vous pouvez, vous allez voir sur Internet quand le calvinisme va mal. Voici ce qu'il dit. Lui, il veut que le calvinisme, mais il ne veut pas de sa logique. Parce que pour lui, le calvinisme, c'est-à-dire que Dieu est souverain, il y a des élus et tout ça. Lorsqu'on suit la logique, on arrive à si Dieu est souverain, si Dieu a des élus, puis si on est mort spirituellement, on ne peut pas rien faire, Dieu fait tout. Donc, puis que tout le monde n'est pas sauvé, donc le salut est limité. Il ne veut pas qu'on continue la logique pour arriver jusque-là. Mais il tient quand même à l'idée que Dieu est souverain, puis qu'on est mort spirituellement, puis qu'il ne veut pas du salut par les œuvres. Donc, il ne veut pas suivre la logique, il n'est pas d'accord avec où ça nous mène, mais il est d'accord avec les principes de base parce qu'il ne veut pas les abandonner. Il ne croit pas que le calvinisme soit dans l'erreur, mais il refuse sa logique, puis il ne veut pas aller à l'hyper-calvinisme. Je crois plutôt que la logique est juste. La logique calviniste est juste. Si tu la suis jusqu'au bout, on arrive à un salut qui est limité, et on arrive au fait que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Voici ce qu'il dit. L'hyper-calviniste détruit l'Église et demande à Dieu, préserve-nous de l'erreur. Ne parlez pas de l'élection aux incroyants. Ah oui, parce que si on est des élus, je parle à quelqu'un, je ne sais même pas encore s'il est élu, Puis lui, il va me dire, bien, s'il y a des élus, puis c'est juste eux autres qui vont être sauvés, pourquoi tu me prêches l'Évangile? Quand même, je voudrais, je ne pourrais pas, si je ne suis pas un élu. Donc, n'en parlez pas aux incroyants. Si c'est 100% Dieu, l'incroyant va dire, si c'était en mon pouvoir, je deviendrais chrétien. Mais je ne peux pas parce que je ne suis pas élu. Si c'est l'élection qui nous sauve, pas nécessaire de chercher Dieu non plus. Quelqu'un qui a abandonné la foi dernièrement disait, je n'ai pas besoin d'être inquiète, même si j'abandonne la foi. De toute façon, si je suis un élu, je serai sauvé, de toute façon. Quand même que je ferais des pieds et des mains pour me perdre, je ne pourrais même pas me perdre. Puis quand même que je ferais des pieds et des mains pour me sauver, je ne pourrais pas me sauver non plus. Donc, regarde, je ne m'inquiète pas, j'abandonne la foi, je quitte l'Église, puis je fais ma vie. Puis je me sens en paix avec ça parce que je sais que je ne peux rien faire. Pas de problème, je m'en vais dans le monde. Demander aux gens de se repentir, c'est demander l'impossible. Parce qu'un non-élu ne peut pas se repentir. Il faut que Dieu lui donne la foi. Il ne peut pas, si Dieu ne la lui donne pas. Il se demande de quelle façon Dieu aime ceux qui ne sont pas élus, si c'est comme ça. Phil Johnson, un ancien avec MacArthur, dit « Je suis inquiet de la montée hyper-calvinisme aux États-Unis et partout dans le monde. Ces tendances sont mortelles. C'est l'Évangile qui est en jeu. » Il y en a qui vont dire « Pourquoi on parle de ça encore, l'élection et tout ça? » Pourquoi on a-t-il besoin vraiment de parler de ça? Je pense que oui, on a besoin parce que c'est l'Évangile qui est en jeu. Et c'est énorme, c'est ce qu'il dit. C'est l'Évangile qui est en jeu et c'est énorme. Murray dit « Le calvinisme est maintenant sur les pupitres partout dans le monde. » Et cela affecte l'évangélisation. Le calvinisme est toujours suivi de près par l'hyper-calvinisme. Oui, parce que le calvinisme, dans sa structure, doit nous emmener là, dans sa logique. Il pousse à devenir tout simplement passif. Ben oui, c'est 100% Dieu. Qu'est-ce que j'ai à faire? 100% Dieu, je n'ai rien à faire. Ni pour ma sanctification, ni pour mon salut. Plusieurs églises réformées disent « La grande mission, ce n'est pas pour nous. » Pas besoin de grande mission. Il y a des élus, ils vont venir au salut. Il faut préserver l'Évangile, car c'est ce qui est en jeu, dit Conway. Andrew Fuller, en 1700, suite à cette théologie, dit « L'Église était devenue sans vie et en train de mourir. » L'Église avait peur de provoquer des fausses conversions. Imagine si je prêche l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas élu, puis il se convertit par le raisonnement, je l'emmène dans l'Église, une fausse conversion, il va nuire à l'Église, il n'est pas sauvé. Donc, je ne vais pas prêcher, salut, il va venir, pareil, il va venir au Seigneur. Donc, forçons-nous pas, faisons pas comme Paul qui s'efforçait de convaincre. Pourquoi Paul s'efforçait de convaincre? Paul aurait dû dire, je ne me forcerai pas pour les convaincre. OK, moi, Dieu parlait parce que c'est ma job, mais je ne me casserai pas la tête pour essayer de les convaincre. De toute façon, ça ne donnerait rien. Il faut que je sais, c'est Dieu qui y parle, puis Dieu va le faire comprendre, puis là, il va venir au salut. Non, Paul, il dit, je m'efforce, puis j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, je renverse les raisonnements pour arriver à les faire saisir qui ont une responsabilité de mettre leur foi en Jésus-Christ. Il avait peur de provoquer des fausses conversions. L'hyper-calviniste détourne, tue la vérité, paralyse et conduit à la passivité. Il arrache l'Évangile même de l'Église, de manière inquiétante et subtile. Pourquoi c'est subtil? Eh bien, qui est contre la vertu? Dieu est souverain. C'est pour ça que c'est comme ça. Ah bien, Dieu est souverain. Toi, tu es corrompu, totalement corrompu. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que tu ne peux rien faire. Ah bien ça, c'est une bonne chose, c'est bien. Puis si tu essaies de faire de quoi? Bien, ça va devenir un salut par les œuvres. Ah bien. Ça aussi, c'est bien. Donc, on adhère au 100% Dieu et 100% passif pour l'être humain. La dernière fois, on avait parlé, est-ce qu'on est 100% passif dans la sanctification? Et vous vous rappelez, j'ai dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. On avait le vieil homme, on avait le nouvel homme. Et si Dieu est 100% seul dans la sanctification, eh bien, Dieu dirait, restez assis, je vais vous habiller de neuf. Je vais vous mettre sur vous un vêtement nouveau. Non, il dit pas ça. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Dépouillez-vous du vieil homme. C'est l'homme qui fait ça. Dépouille-toi du vieil homme, puis choisis le nouvel. Mais moi, mon rôle à moi, ma part à Dieu, je vais te montrer comment t'habiller. Moi, ma part, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois enlever sur ton dos. C'est quoi qui... Comment s'habille un enfant de Dieu? Toi, tu peux pas savoir ça. Tu es dépendant de moi. Il faut que je t'explique comment t'habiller, parce que la chair, elle te l'expliquera pas. Tu es dépendant de ce que je t'explique ce qu'il faut faire. Mais tu resteras toujours libre de choisir si tu veux marcher selon la chair ou selon l'esprit. Donc, il y a une participation. Oui, c'est Dieu qui sanctifie. Il y a une dépendance. On a besoin que Dieu nous parle. On a besoin que Dieu nous enseigne. On a l'esprit en nous qui est la vérité. Mais on doit recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous et qui peut délivrer nos âmes. C'est pas parce que Dieu plante la parole dans nos cœurs qu'on est automatiquement transformé. Non. Il faut recevoir cette parole dans nos cœurs avec douceur et on est transformé. Si notre part est de mettre notre foi en Dieu, on a les problèmes qui suivent. On nie la mort spirituelle, on enlève à Dieu sa souveraineté, on prêche un salut par les œuvres. Non. Ni un, ni l'autre de ces trois choses. Parce que si c'était ça, si Dieu est 100% seul, il est seul responsable aussi, il serait seul responsable de la perdition et de la vie charnelle de ceux qui sont charnels. Une part de responsabilité pour nous, on nie pas la mort spirituelle, on ne menace pas la souveraineté de Dieu et ce n'est pas un salut par les œuvres. Luther dit ceci, « C'est une justice étrangère aux croyants qui seul justifie et sanctifie. 100% Dieu. Tout dans la sanctification, selon Luther, est de Dieu et rien n'est de l'homme. » On arrive au 100% aussi Dieu. Lisons la Confession de foi baptiste 1689. Et on a ces mêmes thèmes qui sont cités dans plusieurs autres conciles aussi. Le salut procède de la seule grâce de Dieu. L'homme est entièrement passif, puisqu'il est mort dans ses péchés. Voyez-vous ce qu'on utilise? Puisque tu es mort dans tes péchés, tu es entièrement passif. Et dans ses transgressions, jusqu'à ce qu'il soit vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Il est alors rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui y est offerte et communiquée. Ici, on voit que c'est clair que, avec cette confession de foi-là, on met l'homme 100% passif et Dieu 100% actif, seul dans le processus. Le salut est-il pour tous? Si la foi est un don de Dieu à ses élus. On va donner un exemple. On est 1000 prisonniers qui ont été condamnés justement, à juste titre, puis on a été enfermés sur une île. On est tous condamnés, puis c'est juste pour ce qu'on a fait. Puis un homme rempli de grâce est prêt à aller payer la rançon pour tous ces 1000 prisonniers-là qui sont là. Puis il vient avec son bateau sur l'île, son bateau de la grâce, puis il vient pour les chercher. En débarquant du bateau, il avertit tout le monde. Moi, j'ai payé la rançon pour vous tous. Et je veux que tous ceux qui sont là soient sauvés et soient ramenés. Par contre, je vais vous donner un billet sur laquelle est écrit la foi. Et vous allez embarquer avec ce billet sur le bateau. Mais le capitaine décide de donner juste 100 billets. Il ne donne pas à tout le monde. Il en donne juste à 100. 100 élus. Alors les 900 autres, Comment est-ce qu'ils peuvent embarquer dans le bateau? Impossible. Parce que ça prend le billet avec écrit la foi dessus. Et le seul qui peut leur donner ce billet-là, c'est le capitaine. Alors, est-ce que le capitaine peut dire à tous ces gens, lorsqu'ils débarquent du bateau, « Ce que je veux, c'est que vous soyez tous sauvés. » Et en même temps, donner la seule chose qui leur permet d'embarquer dans le bateau, juste à 100 personnes. Il ne peut pas faire ça. C'est une incohérence. Alors, lorsqu'on essaie de dire que la foi ne peut pas participer, on est en train de faire comme cet exemple du capitaine. Pour que le salut soit accessible aux 1000 personnes qui étaient sur l'île, il fallait plutôt que chaque être humain, chaque personne sur l'île reçoive un billet blanc sur lequel il n'y a rien, mais sur lequel chacun peut écrire « Je crois ». Alors là, le capitaine pourrait dire « Moi, ce que je veux, c'est que tous soient sauvés. » Et s'il y en a un parmi vous qui ne l'est pas, j'en serai pas le responsable, parce que vous avez tout le pouvoir de marquer « Je crois » dessus. Ainsi, vous pourrez... Je vous demande rien. Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. Je vous demande rien. Écrivez « Je crois » et vous serez sauvés. Le salut est pour tous. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas un billet pour le ciel qui aurait été remis à quelques élus seulement. Ben non. Le salut, ça vient par la foi. On est sauvé parce qu'on croit. Notre liberté, en fait, le libre arbitre du croyant, c'est ce billet blanc. On l'a tous. On a tous la liberté. La semaine passée, j'étais chez nous, on garde le frère à ma femme chez nous, qui était rebelle à l'Évangile pendant toutes les années, pendant 40 ans, où on a présenté l'Évangile. Pas 40, parce que ça fait pas 40 ans que je suis au Seigneur, ça fait 38. Mais on a présenté l'Évangile, et il nous a toujours blasphémés au téléphone. Il nous a insultés de toutes les façons possibles, disant qu'on était des imbéciles d'être des croyants. Maintenant, il demeure chez nous. Puis le 25 juillet, on avait un bâton du fermier chrétien sur lequel on a les cinq couleurs dessus et qu'on explique le plan du salut. Et là, je voyais que depuis quelque temps, il semblait vouloir adhérer à la foi. Alors j'ai dit, Mario, tu sais peut-être pas comment régler ce problème-là. Comment qu'on fait pour devenir chrétien? J'ai dit, c'est simple, Mario. Ce qu'on peut faire, le bâton que tu as reçu avec les cinq couleurs qui expliquent le plan du salut, on pourrait le prendre, parce que quand je vais au fermier chrétien, je prends une croix. Et sur la croix, il y a trois. Il y a le haut, il y a les deux bras. Où est-ce qu'il y a les deux bras, où est-ce qu'il y a la tête? Et là, pour aider les gens à savoir comment accepter le Seigneur, je leur dis, ce que vous pourriez faire pour accepter le Seigneur, là, ben, regarde, prenez cette petite croix-là, marquez un P en haut pour vos péchés passés. Marquez un autre P à côté, sur la main gauche. Marquez un P pour vos péchés présents. Puis sur l'autre, marquez un F pour vos péchés futurs. Puis dites, je reconnais que Jésus-Christ sur cette croix est mort pour mes péchés passés, présents et futurs. Et signe ton nom en bas. Marc, je crois. Alors j'ai dit, tu pourrais faire ça, Mario? Il dit, je suis bien d'accord avec ça. Va chercher ton bâton. Il est allé chercher son bâton. Et on est allé dans la cuisine. Après toutes ces années de rébellion, le 25 juillet, je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés passés, présents, futurs, et il a signé son nom. On s'est réjoui. On s'est réjoui parce que il a écrit son « Je crois ». Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mario n'aurait pas été perdu parce qu'il n'était pas élu. Simplement parce qu'il n'aurait pas voulu écrire son « Je crois ». Et ça, ce n'est pas un salut par les œuvres. Un salut par les œuvres, je crois, c'est une action par laquelle on accepte l'œuvre d'un autre. Ce n'est pas une œuvre, ça. La foi, c'est une action par laquelle on accepte l'œuvre d'un autre. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il y en a qui disent le tous qui est là, ce n'est pas un tous-tous. Non, ce n'est pas tous-tous que ça veut dire nécessairement. Et là, on essaie d'expliquer, puis on dit, bien, c'est tous, mais c'est tous, admettons, sans distinction. Hein? Ça pourrait être une explication, tous sans distinction. Alors, si c'est juste une question de tous sans distinction, mais pas sans exception, alors on continue à lire le verset. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ah, à ce moment-là, tous sans distinction, mais pas sans exception. Donc, c'est pas tout le monde qui sont renfermés dans la désobéissance. Parce qu'il dit, c'est le même tous. Là. Il dit, j'ai renfermé tout le monde, tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, la miséricorde qu'il veut faire à tous, si ce n'est pas tous, ben ce n'est pas tous non plus qui sont dans la désobéissance. On sait bien que ce n'est pas ça. Si Christ est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, est-ce qu'il est mort pour tous, sans exception, ou juste tous, sans distinction? Non, il est mort pour tous. Sans exception. Parce que Christ est mort pour tous, pour faire miséricorde à tous. Car si Christ est mort pour tous donc sont morts. Il est une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Acte 17, 30, Romains 5, 18. Par une seule offrande, une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Pas à seulement des élus. Notre espérance est dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Titre, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Si la foi est nécessaire au salut, la foi qui est nécessaire au salut, si elle est un don de Dieu et que tous n'ont pas la foi, c'est que Dieu ne veut pas la donner à tous. C'est que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Et on sait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est tellement clair comme doctrine. Dieu aurait le droit de perdre tout le monde. C'est dans son droit qu'on serait tous perdus, comme les 1000 personnes qui étaient sur l'île étaient condamnées et ils méritaient leur condamnation. On n'est pas en train de dire que Dieu n'est pas justifié de laisser les gens se perdre. On est en train de dire que Dieu ne peut pas dire en même temps « Je veux sauver tout le monde et être le seul à pouvoir le faire et de laisser des gens perdus. » C'est juste ça. Et on sait que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que si tout le monde n'est pas sauvé, ce n'est pas sa responsabilité à lui. Mais c'est la part de l'homme qui n'est pas remplie de mettre sa foi dans son sauveur. Malheureusement, je n'aurai vraiment pas le temps de vous donner les versets qui nous amènent à cette position, mais j'espère qu'on aura pu faire un petit bout de chemin. Le salut est-il pour tous si la foi est un don de Dieu et seulement à ses élus? On va reprendre la confession de foi de Baptiste de 1689. Le salut procède de la seule grâce de Dieu. L'homme est entièrement passif puisqu'il est mort dans ses péchés et dans ses transgressions jusqu'à ce qu'il soit vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Il est alors rendu capable de répondre à cet appel et d'accueillir la grâce qui y est offerte. Donc, le problème donné dans cette confession de foi-là, c'est que je ne peux pas venir parce que je suis mort. C'est ça notre question. On avait trois questions. Si je dis que ma foi entre en ligne de compte, est-ce que je suis en train de nier que je suis mort spirituellement? Lui, c'est ce qu'il dit ici. Tu ne peux pas parce que tu es mort spirituellement. L'homme est entièrement passif puisqu'il est mort dans ses péchés et dans ses transgressions. Donc, pour régler le problème qu'il a, puisqu'il est mort dans ses péchés, pour venir à la foi, comment est-ce qu'il va arriver à la foi s'il est mort et il ne peut pas rien faire? Il va falloir qu'il vienne à la vie. Avant, puis là, il va pouvoir aller à la foi. C'est ce qu'il dit. Jusqu'à ce qu'il soit vivifié. Ah, ramené à la vie, et ensuite, il est renouvelé par le Saint-Esprit, puis là, il est rendu capable de répondre à l'appel, et ainsi, on garde la souveraineté de Dieu, on sauve le salut par les œuvres, parce que c'est Dieu qui l'a ramené à la vie, puis s'il a pu cru, c'est pas de sa faute, bien, si, oui, il a cru, il a voulu croire, mais c'est parce que Dieu l'a ramené à la vie, avant, pour qu'il puisse venir à Jésus-Christ. Le problème avec ça, c'est que Jésus dit « Venez à moi, si vous voulez avoir la vie ». Il ne dit pas « Allez à la vie pour pouvoir venir à moi ». Venez à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi. Et c'est pour ça que vous n'avez pas la vie. Donc, on ne vient pas à la vie pour venir à Jésus-Christ, mais on vient à Jésus-Christ pour arriver à la vie. Mais on est arrivé à ces conclusions-là parce qu'on ne voudrait pas enlever l'idée qu'on est mort spirituellement. Donc, si on est mort spirituellement et qu'on ne peut rien faire, comment ça se fait qu'on accepte le Seigneur à un moment donné? Bien, c'est parce qu'on a été ramené à la vie. Ah oui, tu as été ramené à la vie avant de venir à Jésus-Christ. Et tu as été amené à la repentance et tu as reçu le Saint-Esprit avant la repentance. La Bible dit « Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit ne vient pas pour qu'on se repente. On se repent et on reçoit le Saint-Esprit. La même chose pour Jésus-Christ. On ne vient pas à Jésus-Christ pour on ne vient pas à la vie pour venir à Jésus-Christ, mais on vient à Jésus-Christ pour avoir la vie. La chute de l'homme a été causée par un manque de foi. Puis Dieu a prévu un moyen de réconcilier l'homme avec lui. Dans sa souveraineté, il a choisi que la foi en Jésus-Christ, ce serait ce moyen. À Adam, Dieu dit, si tu ne crois pas que cet arbre donne la mort, tu vas mourir. À nous, Dieu dit, si tu crois que Jésus-Christ donne la vie, tu vas vivre. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, c'était dans son décret. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans son omniscience, Dieu connaît ceux qui vont croire. Ceux qui vont accepter de se réfugier en lui. Dans son omniscience, il savait d'avance qui accepterait le Seigneur. Jésus dit, il savait déjà qui parmi eux ne croira pas. C'est comme si le capitaine qui a écrit et qui sait d'avance qui va écrire sur le billet, je crois. Tu sais d'avance. C'est comme si ce capitaine-là avait pu savoir d'avance qui. Mais là, il aurait pu dire, ça va être les croyants. Ça va être ceux qui vont embarquer sur le bateau. Ça va être les élus. Parce que moi, je sais c'est qui va l'écrire sur le billet, je crois. Mais c'est pas pour ça que je veux pas que tout le monde embarque. Je veux que tout le monde embarque. Je veux que tout le monde aille l'écrire, je crois. Mais je sais que ça sera pas ça. Et pourquoi ça va être comme ça? Parce que j'ai décidé que l'homme serait libre de faire ce qu'il veut. C'est le coût de la liberté que je donne à l'être humain d'aller écrire son « je crois » sur le billet. Et ça me fait de la peine. Il y en a qui refusent de le faire. Je suis attristé parce que ça m'a coûté tellement cher pour amener ce bateau-là à l'île. J'ai payé la rançon pour tous ces êtres humains et malheureusement, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il n'y en a pas gros qui vont accepter de mettre « je crois » dessus. Mais celui qui ne l'aura pas fait, le capitaine n'en sera pas responsable. Il aura choisi d'écrire « je crois » ou de ne pas l'écrire. Dieu nous a donc élus, sachant qu'on accepterait librement de croire en lui. Les autres n'ont pas été élus parce que Dieu savait qu'ils refuseraient son décret. On ne croit pas parce qu'on a été élus, mais nous sommes élus parce que Dieu savait que nous croirions. Alors, l'homme garde sa responsabilité et Dieu n'a pas la responsabilité de la perdition des gens et son salut demeure universel. Vous allez dire, je termine avec ça. Vous allez dire, est-ce qu'on voit dans la Bible que Dieu avait un critère dans son élection? Lorsqu'il a décidé de choisir qui serait perdu, ou sauvé plutôt, est-ce qu'il y avait un critère? On dit non, Dieu est souverain, il a choisi souverainement, il fait miséricorde à qui il veut. Écoutez ceci, lorsque justement Paul dans Romains est en train de parler de l'élection, il dit ceci, Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a connu d'avance? Non, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même, aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ici, il est en train de dire, pendant qu'il est en train de parler de l'élection, parce qu'il vient juste de parler, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaü, j'ai fait miséricorde à qui je veux, c'est le thème, là. Puis il parle de la foi, toute l'Épître aux Romains. Malheureusement, on n'a pas le temps de regarder ça, mais il est en train de parler de l'élection, puis il dit, voici, comment ça se passe l'élection maintenant? Rappelez-vous quand j'ai choisi les 7000 hommes. J'ai choisi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça dit des croyants, ceux qui croyaient en l'Éternel. C'est eux que j'ai choisis. Et il en est de même de l'élection présentement. Ceux que j'ai choisis, c'est ceux qui ont accepté d'écrire, je crois. Parce que j'ai prévu d'avance que les païens seraient justifiés par la foi. C'est mon plan, c'est mon décret. Et je demeure souverain. Parce que on aurait eu beau avoir la foi qu'on voulait. Si Dieu n'avait pas décrété qu'on pouvait être sauvé par la foi, personne ne serait sauvé, malgré la grandeur de foi qu'on aurait pu avoir. Donc, Dieu est souverain. Ce n'est pas notre foi qui a initié le salut, mais c'est Dieu, par son décret, de nous donner un moyen d'arriver au salut. On ne touche pas à la souveraineté de Dieu parce que notre foi entre en ligne de compte. Mais non. C'est le moyen, c'est lui qui l'a initié. Premièrement, il a fait l'œuvre à la croix, et ensuite, il a offert un moyen de saisir l'œuvre. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous pouvez aller le chercher. C'est un moyen que je vous accorde. Vous pouvez prendre ce moyen-là pour aller chercher le salut. Donc, il y avait un critère dans le choix de ces 7000 hommes, de l'élection de ces 7000 hommes dans l'Ancien Testament, et de même manière, Paul dit, il y a aussi un critère ici. C'est la foi. C'est tout le thème que je suis en train de vous expliquer dans Romains, l'Épître au complet. Le juste vivra par la foi. Alors, que le Seigneur nous aide à réaliser qu'on ne peut rendre Dieu responsable de nos vies charnelles parce que Dieu ferait tout à 100% et que l'homme serait passif. Et on ne peut non plus rendre Dieu responsable de l'incrédulité des gens parce que ce serait Dieu qui donnerait la foi aux croyants. Parce que si c'est comme ça, l'homme n'aurait aucune possibilité de le croire sans recevoir le don. Et ça, je pense que ça nous présente une image de Dieu qui n'est pas l'image que la parole de Dieu nous présente, qui veut que Dieu, veut que tous les hommes soient sauvés. Et j'aurais aimé traiter des quatre sujets qu'on a là dans Romains. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il a parlé d'Isaac par rapport à Ismaël. Pourquoi c'était Isaac? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, avant même qu'il vienne au monde. Donc, je l'ai bien choisi. C'est moi qui l'ai choisi, parce que je fais miséricorde à qui je veux. C'est pas ça que ça dit. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Et l'autre, après, les vases. Je fais des vases. Et j'ai le droit de détruire le vase que je veux, puis j'ai le droit de construire. Là, pourquoi blâmer Dieu? Il fait ce qu'il veut. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est toujours dans le thème de la foi. Il est en train de dire que l'homme va être justifié par la foi, puis par pas d'autres moyens. Et peut-être un jour, on aura le temps de regarder ces textes-là, mais ce matin, malheureusement, c'est tout le temps que j'avais. Et que le Seigneur nous aide à donner la place à Dieu qui lui revient. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui n'a pas écrit « Je crois » sur son billet blanc, eh bien, faites-le. Puis faites-le aujourd'hui, parce que c'est gratuit. Il ne reste juste à écrire « Je crois ». Je vois ce que tu as fait, j'y crois, je l'accepte. Que le Seigneur nous aide à mieux saisir sa parole. Merci Seigneur Dieu de ne pas nous avoir laissés justement orphelins. Tu nous as donné ton esprit, tu nous as laissé ta parole afin qu'on puisse marcher, connaître ta pensée, marcher dans tes voies. Dirige-nous Seigneur, cette parole qui peut délivrer nos âmes, donne-nous l'humilité de la recevoir avec douceur, de l'accepter. Afin que notre marche soit par la foi, qu'on puisse marcher par le Saint-Esprit, guidé par lui, et non par cette chair qui veut nous ramener toujours à nos mauvais penchants, et qu'on puisse te faire confiance. La foi. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Et merci, Seigneur, de nous avoir accordé ce moyen de mettre notre foi en toi pour notre salut et aussi pour notre marche avec toi. Amen.